Les traverses du temps. Bonsoir à toutes et à tous. Des traverses du temps qui ont des allures ce soir de traversée de l'espace. Notre invité, c'est l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur de France en Afghanistan, Jean-Michel Marlot, pour qui la musique a toujours eu une place très importante dans les nombreuses missions qu'il a effectuées à travers le monde. Bonsoir Jean-Michel Marlot.
Bonsoir.
Merci d'être venu. Vous arrivez de Kaboul et ça y est, vous sautez dans le studio, le taxi pour le studio de France Musique pratiquement. Et c'est vrai que la musique, ça compte pour vous dans vos missions.
Merci d'abord de m'avoir invité. Oui, certainement, bien sûr, comme diplomate, je ne suis certainement pas un grand spécialiste de la musique, mais j'ai pu constater à travers tous mes postes dans le monde à quel point la musique était toujours présente et à quel point, au-delà de l'aspect esthétique, de la beauté, de l'intérêt personnel, elle avait également une dimension politique ou diplomatique, où que l'on soit dans le monde.
On s'est rencontrés, on peut le raconter aux auditeurs, parce que c'est assez extraordinaire. Je quittais pratiquement Bogota. Après un long temps, on passait à faire des recherches musicales. Et puis, vous m'avez raconté que le week-end, vous partiez avec sac à dos, qu'un jour, vous avez fait le chemin des ânes qui portaient des pianos du fleuve Magdalena qui montaient les Andes jusqu'à Bogota.
Ah oui, parce que dans le temps, naturellement, avant l'avènement de l'aviation, la seule façon d'arriver à Bogota, c'était de suivre le Rio Magdalena, cet immense fleuve à travers la Colombie, jusqu'à une petite ville coloniale qui s'appelle Honda. Et de là, en effet, on remontait en âne, ou on descendait évidemment, selon le trajet, jusqu'à Bogota. Et il reste aujourd'hui encore des tronçons de ce sentier à travers les campagnes, où on peut se promener, mais il faut faire attention parce qu'on s'y perd facilement.
Et vous parliez donc de cette musique qui vous accompagne et qui a une dimension politique, vous dites. Et il y a certains livrets de cantates ou d'opéra qui ont une grande résonance en vous.
Oui, alors évidemment, bon, la musique la plus connue liée à la politique, c'est Nabucco, mais je me suis dit que justement, c'était un petit peu trop connu et j'ai préféré suggérer que nous commencions avec un air de Apollon et Daphné de Handel, qui justement fait référence à cette aspiration pour la liberté.
Thank you.
L'air de Daphné, heureux l'âme qui n'aime que la liberté, de cette cantate Apollon et Daphné pour soprano, baryton et orchestre HWV 122 de Georg Friedrich Händel, avec cette belle voix, n'est-ce pas, Jean-Michel Marleau, de la soprano canadienne Karina Gauvin. C'était les violons du roi de Montréal, dirigés par Bernard Labadie. Je pense que c'était bien qu'on ait un petit ensemble qui ne soit pas européen. Pour un ambassadeur, c'est pas mal.
Tout à fait.
Alors, on va parler maintenant, évidemment, de ces pays. Vous avez choisi trois pays, en réalité, mais il y en a tellement d'autres dont vous pourriez parler des heures. Trois pays qui vous ont beaucoup marqué, à la fois au point de vue politique, musical, culturel, enfin.
Oui, le premier de ces trois pays, c'est la Bolivie, qui a été le deuxième pays où j'ai servi comme ambassadeur et qui a surtout comme très grande caractéristique d'être le pays du syncrétisme, puisqu'il y a une population indigène très nombreuse et qui encore aujourd'hui a gardé des traditions culturelles extrêmement fortes, évidemment mélangées avec des influences européennes très variées et même, bien qu'on ne les voit pas beaucoup, également une couche d'influence, si j'ose dire, africaine, noire, puisque à une époque, les Espagnols ont essayé de faire venir des esclaves d'Afrique pour travailler dans les mines. Et aujourd'hui encore, dans quelques régions, dans les vallées du Chaparré, on trouve des descendants de ces Africains. Le moment le plus extraordinaire où on retrouve ce syncrétisme, c'est le carnaval, et en particulier dans une ville particulièrement ingrate, une ville de l'altiplano minier qui s'appelle Oruro, où pendant une semaine environ, pendant le carnaval, il y a des processions, des chants et des danses en l'honneur de la Vierge que l'on appelle la Virgen del Socavón, qui est la Vierge qui protège les mineurs, puisque les mineurs se sentent à la fois protégés par la Vierge, mais aussi par le démon, puisque dans les mines, il y a toujours une statue de celui qu'on appelle El Tio, l'oncle, qui est en fait un démon auquel on fait des offrandes, des cigarettes, des feuilles de coca. Et donc pendant trois années consécutives, on fait le vœu de danser pour la Vierge, et on danse avec ses musiques, les caporales, les sayas, qui mêlent toutes ces influences indigènes, européennes, africaines.
Oh là là, que de souvenirs pour moi, Jean-Michel Marleau. J'ai connu les Charcas. quand j'étais en Bolivie dans les années 80. C'est un vieux groupe aujourd'hui.
Oui, c'est un vieux groupe, mais enfin, cette musique continue aujourd'hui à se jouer. Et le carnaval garde toute son importance.
Et les caporales, les caporaux qui étaient les contremaîtres d'esclaves, en fait, hein, avec leur fouet, on les voit danser ça.
Oui, on les voit, bien sûr, oui. Pendant, en fait, deux jours d'ailleurs consécutifs, il y a des grandes processions à travers Oruro. Le premier jour, c'est la procession la plus solennelle. Le deuxième jour, ils redéfilent, mais de façon beaucoup plus décontractée. Mais ils défilent quand même toute la journée. Ils commencent à l'aube et ils terminent après le crépuscule.
Et là, vous allez nous raconter une de vos grandes aventures, tout de même, en Bolivie. C'est une Bolivie qu'on ignore un peu, qui est une Bolivie déjà plus tropicale, non ?
Oui, ça a été certainement... dans tous les postes, de tous les postes, celui qui nous a apporté la plus grande expérience musicale, en grande partie pour une coïncidence de date, c'est-à-dire que nous étions en Bolivie entre 1994 et 1998, et c'est l'époque à laquelle on a découvert la musique de ce que l'on appelle l'Oriente bolivien, donc la partie orientale, comme son nom l'indique, à la frontière avec le Brésil et avec le Paraguay, une zone qui était toujours un petit peu considérée comme marginale. Et il y avait un certain intérêt pour cette musique des missions jésuites de l'Est bolivien. Mais pour plusieurs raisons, les Boliviens n'étaient pas très satisfaits de la situation. D'abord parce que toutes les études avaient été faites par des musicologues argentins et ils éprouvaient le besoin eux-mêmes, comme Boliviens, de se réapproprier cet héritage qui était le leur. Le deuxième point pour lequel ils n'étaient pas très satisfaits était que la tendance des musicologues était systématiquement d'attribuer toutes les œuvres à des Européens, des compositeurs européens, et en particulier à Domenico Zipoli.
Ah oui, on parlait que de lui, Zipoli, l'Italien qui avait débarqué là-bas.
Voilà, jésuite italien qui avait servi dans plusieurs villages autour du lac Titicaca et à qui on attribuait systématiquement toutes les œuvres. Et c'est vrai que le corpus de ses œuvres est essentiellement un corpus religieux, en particulier l'œuvre probablement la plus emblématique, et cet opéra, cet oratorio qu'on appelle San Ignacio, dans lequel il y a d'abord un dialogue entre Saint Ignace de Loyola, bien sûr, le fondateur des jésuites, et puis des messagers divins. Et le démon, d'ailleurs, qui essaye de le distraire. Et puis, une fois Saint Ignace convaincu de fonder l'ordre des jésuites, dans la deuxième partie de l'œuvre, il y a un dialogue entre Saint Ignace et Saint François-Xavier. Et Saint Ignace qui dit à Saint François-Xavier, eh bien, c'est toi qui vas partir pour évangéliser les Indiens.
Et vous avez choisi l'épisode où, justement, Saint Ignace est avec le démon.
Les démons sont généralement plus intéressants que les anges. Pensamiento, miento, miento. ¿Quién es tu dueño? ¿De quién eres criado? Oídlo y lo sabréis en un momento. Es el mayor monarca de la tierra. El mayor monarca de la tierra. En paz siempre es feliz y más en guerra. En paz siempre es feliz y más en guerra. En guerra, 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 y más en guerra. En guerra, 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 y más en guerra. Enorme todo tiene su potencia. Tiene su potencia. Dios de la manera y de obediencia. Tiento, tiento. Mas por ahora es
Un extrait de l'opéra Sandignacio, qui a été créé dans ces missions jésuites dans l'est, le sud-est de la Bolivie. Et nous écoutions la reconstitution qu'a réalisée Bernardo Hilary, un Argentin, encore une fois, Jean-Michel Marlaud, de cet opéra qu'on a attribué à Zipoli, à Martin Schmidt et à de nombreux compositeurs qui sont restés anonymes, hélas. Rosa Dominguez dans le rôle d'Ignacio et Furio Sanasi, le démon, l'ensemble Lima et Gabriel Garrido qui le dirigeait. On entendait, c'était assez drôle, l'écho qui répondait, le démon qui parlait de sa pensée, pensamiento, et l'écho lui disait « je mens, miento, miento ». Je vous laisse raconter la suite.
D'abord, je voudrais rendre un hommage à Gabriel Garrido parce que je me souviens des premiers concerts auxquels nous avons assisté dans ces églises des missions ou parfois aussi dans la cathédrale de Santa Cruz, concerts auxquels était invitée la population, auxquels était invitée la population. Et nous avions beaucoup d'interrogations parce que c'était pas du tout une musique aujourd'hui que les gens sont habitués à entendre. Donc on se demandait, en plus les concerts étaient gratuits, donc on se demandait si au bout de 5 minutes on n'allait pas commencer à entendre des bruits de chaises, des tous, et puis le public partir, se disperser, etc. Il régnait un silence absolument total. Le public a été pris par Gabriel Garrido, par les musiciens. Il y a eu vraiment une redécouverte par les Boliviens eux-mêmes de ce qui leur appartient, qui était absolument étonnante et qui, évidemment, était due aussi au talent du chef d'orchestre. Mais pour les Boliviens, en effet, il y avait d'autres enjeux dans cette redécouverte de cette musique, en particulier parce que ça correspondait à une certaine évolution dans les centres de pouvoir en Bolivie. C'est-à-dire que, historiquement, la Bolivie s'est construite autour de l'argent, autour des mines d'argent, autour du Cerro Rico de Potosí. Et à l'époque, au XVIIe, au XVIIIe siècle, la capitale était Sucre, une ville qui se trouve tout à côté de Potosí. Et puis, lorsque les mines d'argent ont commencé à s'épuiser, une autre richesse est venue remplacer l'argent, c'était l'étain. Et il y a eu ces grandes mines d'étain qui ont fait les grands milliardaires boliviens qu'on retrouve, y compris dans certaines comédies musicales ou opérettes qui les traitent de façon un peu caricaturale. Et à ce moment-là, la capitale elle-même a suivi en quelque sorte ce mouvement économique et elle a quitté Sucre et la capitale a été installée à La Paz, où elle se trouve encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la richesse n'est plus sur l'altiplano, elle n'est plus dans les mines d'étain. Les prix de l'étain sont effondrés et on ne peut plus vivre aujourd'hui vraiment de la production de l'étain. Ce qui fait aujourd'hui la richesse de la Bolivie, justement, c'est la partie orientale du pays. C'est là qu'on trouve du bois, c'est là qu'on trouve du soja, qu'on a commencé à développer les cultures de soja. Et il faut bien le dire, c'est là aussi que l'on cultive la coca, qui ensuite deviendra la cocaïne. Mais ce mouvement économique vers l'Est bolivien ne s'est pas du tout accompagné pour l'instant d'un mouvement politique et le pouvoir politique reste centralisé à La Paz, dans l'altiplano. C'était donc aussi une façon pour les populations de l'Oriente, qui sont pour les indigènes plutôt d'origine guarani, de prendre leur revanche culturelle et de dire « mais nous ne sommes pas seulement des incultes et des sauvages, en gros, nous avons nous aussi une riche tradition, une tradition musicale ». Et puis, l'autre enjeu politique, au sens général du terme, c'était justement en redécouvrant cette identité indigène dans la musique, de bien expliquer que la Bolivie d'aujourd'hui est une Bolivie du syncrétisme, de la fusion entre ses apports européens et indigènes. Et en particulier, contrairement à ce que l'on pensait, que la musique des missions jésuites ne s'était pas arrêtée au moment de l'expulsion des jésuites en 1767, que les compositeurs indigènes avaient continué à composer après le départ des jésuites, y compris en introduisant dans les pièces qu'ils composaient des instruments de musique que nous ne connaissons pas en Europe, comme les bajones, qui sont des gigantesques flûtes de pan tellement grandes que lorsqu'on sort pour jouer de la musique en procession, vous avez quelqu'un qui joue, qui souffle dans les tuyaux, mais il en faut un autre qui porte les tuyaux sur ses épaules parce que c'est trop grand pour que le même musicien puisse les tenir. Et vous avez aussi des morceaux de cette musique qui ont été composés en langues indigènes. Oh,
Il est 19h31, vous écoutez France Musique, les Traverses du Temps, et nous sommes en compagnie de Jean-Michel Marleau, ambassadeur de France en Afghanistan, et qui nous raconte ses péripéties, ses tribulations musicales en Bolivie. Nous écoutions à l'instant l'ensemble Lima, à nouveau sous la direction de Gabriel Garrido, et avec les enfants, le chœur d'enfants de Córdoba en Argentine, dans cette opéra Saint-François Xavier, chanté en langue guarani, Jean-Michel Marleau.
Oui, oui, tout à fait.
Et il y a eu un opérateur exceptionnel dans tout ça qui s'appelle Les Chemins du Baroque.
Alors voilà, parce que la demande était tout à fait claire. De façon assez spontanée, les Boliviens se tournaient vers nous parce que la France a la réputation justifiée d'ailleurs d'être plutôt ouverte aux musiques du monde et d'avoir un intérêt toujours pour les questions culturelles. Mais évidemment, une ambassade ne peut rien faire par elle-même. Nous n'avons pas les compétences ni la capacité. Et là, comme par un miracle, arrive Alain Paquier, qui donc dirige à la fois le label K617 de diffusion musicale et aussi une association, Les Chemins du Baroque. Il vient en Bolivie, il loge à la résidence et sachant donc qu'il s'intéresse à la musique baroque, je mets sur sa table de chevet un article qui était consacré à la musique baroque des missions jésuites et il l'a pris comme une perfidie de ma part parce que dans cet article, les Boliviens regrettaient justement que l'on attribue systématiquement à des Italiens leur patrimoine et qu'on ne les laisse pas suffisamment non plus le travailler eux-mêmes, ce qu'il a pris comme une critique personnelle. Et du coup, il a eu d'autant plus à cœur de développer ce programme avec les Boliviens. Alors, le programme, à vrai dire, nous ne l'avions pas en tête lorsque cela a commencé. Il s'est développé de lui-même en fonction des évolutions naturelles. Au début, il s'agissait simplement de diffusion, de faire connaître ses œuvres, de les publier sous le label K617. Mais ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de partitions qui restaient éparpillées dans ces missions jésuites. On a pu s'appuyer sur le travail d'un jeune prêtre jésuite polonais, Piotr Nawrot, qui avait beaucoup travaillé sur ces partitions. Et on a découvert qu'elles étaient partout, où elles servaient à caler les portes des meubles. Elles étaient entreposées dans des conditions épouvantables, livrées à l'humidité, aux insectes, etc. Donc il y a eu tout un travail de récupération, de restitution de ces partitions. Et puis, dans le cadre de ce travail sur le patrimoine aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait un patrimoine d'orgue absolument exceptionnel. Alors, peut-être pas exceptionnel en qualité d'orgue. Ce sont des orgues qui avaient d'abord été introduits par un prêtre jésuite suisse, Martin Schmidt. Et ensuite, Martin Schmidt avait enseigné aux indigènes l'art de la fabrication d'instruments. Mais ils avaient pour caractéristique de n'avoir jamais été restaurés. Et donc, ils étaient exactement dans leur état d'origine. On a donc commencé un travail de restauration, notamment d'un orgue qui, lui, alors, était quand même vraiment exceptionnel, qui était l'orgue du monastère de Santa Clara à Sucre, dans des conditions un peu particulières, parce que c'est un monastère qui est encore habité par des nonnes cloîtrées et qui donc ont vu débarquer des jeunes facteurs d'orgue français qui ont commencé à courir partout, pas à courir, mais enfin, en tout cas, se déplacer partout dans le monastère, ce qui a vraiment été une expérience culturelle très intéressante pour tout le monde. Et puis à un moment, on s'est dit, oui, mais ça ne sert à rien de restaurer des orgues si les Boliviens eux-mêmes n'ont pas accès à cette musique. Et donc, on a créé au Conservatoire National de Musique de La Paz un enseignement d'orgue en s'appuyant sur Francis Chaplet, organiste français mais vivant en Espagne et qui est revenu chaque année passer plusieurs mois en Bolivie pour animer des masterclass et développer cet enseignement de l'orgue au conservatoire.
Là, nous écoutons Norberto Brogini à l'orgue du couvent de Santa Clara de Sucre en Bolivie dans une folia anonyme espagnole, évidemment.
Thank you.
Une folia que nous entendions interprétée par Norberto Brugini à l'orgue du couvent de Santa Clara de Sucre en Bolivie, d'un manuscrit de la région des Indiens Chiquitos en Bolivie. Jean-Philippe Marlot, vous parlez de métissage. Effectivement, il est plus important qu'on le croit en Bolivie.
Oui, je crois que c'était vraiment ça le message politique qu'on voulait faire passer. D'ailleurs, au même moment, on a organisé à la chapelle de la Sorbonne une exposition intitulée « Le retour des anges », consacrée à tous ces anges de la région du lac Titicaca, où on retrouve ce même métissage. Par exemple, un tableau représentant la scène. Au milieu de la table où se trouvent Jésus et les disciples, il y a un cochon d'Inde, le plat traditionnel des indigènes de l'Altiplano.
Et là, on part en Colombie.
Alors effectivement, nous sommes partis pour la Colombie quelques années plus tard. Entre-temps, on est rentré à Paris, on est allé en Nouvelle-Zélande. Et en Colombie, le monde est évidemment, c'est un monde différent. La Colombie est quand même d'abord, par définition, la terre de la musique. On en connaît généralement surtout la cumbia, bien sûr, et également la salsa. Mais j'ai plutôt souhaité commencer avec un vallenato qui, pour les Colombiens, est une musique qui exprime beaucoup plus l'âme de leur pays, parce qu'elle mélange des instruments d'origine européenne, comme l'accordéon, d'origine africaine, comme les tambours, et d'origine indigène, comme la gaïta.
Jean-Michel Marlot, là vous nous faites entendre un des chanteurs les plus populaires en Colombie, Carlos Vives.
Oui, effectivement, Carlos Vives est très connu. Alors lui est un chanteur jeune. Mais surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une autre caractéristique du vallenato, c'est d'être à cheval entre la culture populaire et la culture des élites, disons. En particulier, Garcia Marquez était un grand amateur de vallenato. Il avait lui-même présenté « Cent ans de solitude » comme un gigantesque vallenato. Et si vous reprenez « L'amour au temps du choléra », l'ouvrage s'ouvre sur une phrase de Leandro Dias, qui était un très grand compositeur de vallenato.
Vallenato, c'est parce que c'est de la ville de Valle d'Upar.
Parce que ça vient de Valle d'Upar, absolument.
Qui est tout près des Caraïbes.
Absolument, et tout près de Aracataca, qui est la ville natale de Garcia Marquez.
Voilà. Et alors, on continue.
Alors, là aussi, comme en Bolivie, la musique a un grand poids politique en Colombie. L'exemple le plus typique est sans doute plutôt là, à Cali, qui est une ville qui se considère comme une ville blanche, comme la ville de la salsa. Et pourtant, une fois par an, il y a un très grand festival, le festival Petronio Alvarez. Et là, on voit arriver toutes ces populations noires du Chocó, la région du Pacifique, la forêt. Ils ont parfois fait 3-4 jours de pirogue pour arriver et participer au festival et pour faire entendre leur musique, qui n'a rien à voir et qui est essentiellement fondée sur la marimba, qui est vraiment l'instrument typique du Chocó. Alors évidemment, dans un monde musical aussi diversifié, et puis qui existe par lui-même, le rôle d'une ambassade ne s'impose pas nécessairement. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la France en tant que telle, là aussi, a une forte image. Et c'est en particulier l'exemple de Toto la Mompocina qui permet de parler de cette image. Toto la Mompocina parce qu'elle est de Mompos, qui est une ville coloniale aujourd'hui complètement assoupie le long du fleuve Magdalena. Toto la Mompocina qui a recréé le patrimoine musical de tous ces villages qui existaient le long du fleuve Magdalena. Mais Toto la Mompocina qui a commencé en chantant dans le métro parisien.
Incroyable, on l'écoute.
muerto por ti. Si supieras mi amor, mi corazón es feliz. Si supieras mi amor, lo que yo siento por ti. Si tú supieras mi amor, mi corazón es corre, corre, que te coge mamá.
La sombra negra, mamá.
Que ya viene ya la sombra, mamá.
La sombra negra, mamá.
Que te coge ya la sombra, papá.
La sombra negra, mamá.
Que ya viene ya la sombra, mamá.
La sombra negra, mamá.
Que te coge ya la sombra, mamá.
La sombra negra, mamá.
Que ya viene ya la sombra, mamá.
La sombra negra, mamá.
La Sombra Negra, si tu savais mon amour, ce que je ressens pour toi et combien mon cœur est heureux, une musique de Paulino Salgado chantée par une des grandes, grandes chanteuses colombiennes, Toto La Momposina. La Colombie, Jean-Michel Morlot.
Alors, le lien entre la politique et la musique en Colombie, c'est essentiellement la vision qu'ont les Colombiens, comme les Vénézuéliens d'ailleurs, d'utiliser la musique pour lutter contre la violence. Et il y a plusieurs projets qui se sont développés avec le soutien de l'ambassade, certains qui existaient déjà lorsque nous sommes arrivés, comme un mélange de cirque et de salsa à Cali, ou bien une école de danse dans les quartiers défavorisés de Cartagène, El Colegio del Cuerpo. Et puis, lorsque nous sommes arrivés, notre arrivée a coïncidé avec le développement d'un autre projet entre une commune de la banlieue de Metz, Huapi, et une petite ville de la zone du café de Colombie, Neira, avec des échanges entre les jeunes de ces deux régions.
Et la banda de Neira, l'orchestre d'harmonie de Neira, sera à Sarrebourg pour le 27e festival qui a lieu du 5 au 14 juillet. Mais rendez-vous donc le 5 juillet au couvent de Saint-Ulrich pour écouter cette célèbre banda de Neira. Ils sont magnifiques. Et on part là dans le pays où vous êtes actuellement, Jean-Michel Marleau, l'Afghanistan,
alors,
Kaboul.
Évidemment, en Afghanistan, la question de savoir s'il y a un lien entre la musique et la politique ne se pose pas, puisque chacun sans doute a encore en mémoire la période des talibans pendant laquelle il était interdit d'avoir des instruments de musique, de jouer de la musique, de chanter, d'avoir une télévision, d'avoir une radio, et même d'avoir des oiseaux chez soi.
Ah bon, carrément.
Alors qu'il y a une grande tradition musicale en Afghanistan, un mélange de traditions iraniennes, de traditions de l'Inde du Nord et également de la région, enfin ce qui est aujourd'hui l'Ouzbékistan, disons. Alors qu'il y a cette grande tradition musicale et que les rois d'Afghanistan avaient développé toute une école de musique, cette école a totalement disparu et il y a aujourd'hui différents projets à travers le pays pour redonner aux Afghans la connaissance et le goût de cette musique traditionnelle, la plus importante étant l'ANIM, Afghan National Institute of Music, qui a été fondée par un Afghan qui vivait en Australie et qui est revenu après 2001 pour créer cette école et pour redonner aux jeunes le goût de la musique.
Et on va écouter une figure très importante en Afghanistan de la musique afghane, qui joue du rebab, c'est Homayoun Saki. Et alors on va l'écouter parce que ça c'est merveilleux, il a été invité par le Kronos Quartet, j'aime beaucoup cette idée aussi de mélange, n'est-ce pas? Et on va l'écouter ici dans une de ses compositions, donc avec le Kronos Quartet.
Thank you.
le trio du joueur de rebab afghan Homayoun Saki avec le Kronos Quartet. Quelle merveille, hein, cet ensemble. On ne pense pas que ça pourrait marcher, mais ça marche vraiment bien.
Mais d'abord, il faut rendre hommage à l'Aga Khan, parce que c'est la fondation de l'Aga Khan qui a permis
ce concert.
De faire ces diffusions de disques et de CD. Il y a toute une collection soutenue par la fondation de l'Aga Khan, qui par ailleurs finance des projets sociaux. Mais l'Aga Khan joue un rôle très important pour la récupération de ce patrimoine musical de l'Afghanistan. Par ailleurs, ce qui est caractéristique dans ce CD, c'est aussi une des grandes caractéristiques de l'Afghanistan, c'est qu'on est à la fois dans une société très traditionnelle, très fermée, ne serait-ce que pour des raisons géographiques, ce ne sont que des vallées perdues, éloignées les unes des autres, mais en même temps très ouverte au monde, parce que dans les pires moments, à l'époque des talibans, plus du quart de la population était partie vivre en exil, et encore aujourd'hui, beaucoup d'artistes et de chanteurs afghans vivent en dehors du pays. Aussi parce que ça reste aujourd'hui un métier dangereux. C'est le cas notamment d'une jeune chanteuse, alors elle, Ariana Saïd, par exemple, qui est régulièrement menacée de mort parce qu'elle anime une émission, The Voice, qui est une émission qui incite...
Télévision.
Inspirée par une émission américaine où des jeunes viennent tenter leur chance, en quelque sorte, et se font critiquer par des vedettes qui leur disent comment améliorer leur performance. Et Ariana paraît à ces émissions sans porter de voile sur la tête. Et parfois, lorsqu'elle chante, elle bouge un peu, alors selon nos critères, de façon vraiment extrêmement limitée, mais ça a suffi pour qu'elle soit prise comme cible par une télévision adverse et menacée. Donc elle vient régulièrement en Afghanistan, mais toujours de façon assez discrète. Donc aujourd'hui encore, chanter en Afghanistan, c'est un acte politique, c'est un acte de courage. Bien sûr, l'immense majorité des Afghans sont des gens tolérants et qui ne se livreraient pas à la violence, mais il y en a aussi quand même qui peuvent faire du mal. Une autre caractéristique de cette ouverture de l'Afghanistan, c'est un autre morceau de musique que je souhaitais qu'on écoute parce qu'il est inspiré par des vers de Rumi, ce grand mystique et poète soufi que généralement on a tendance à associer à la Turquie puisqu'il est enterré à Konya et qu'il a fondé les derviches tourneurs, mais qui en réalité est né à Balkh, une oasis tout à fait au nord de l'Afghanistan, au bord de la Amou-Daria. Et donc ce morceau est un morceau qui rappelle à quel point le naï, la flûte, est le symbole de la séparation, puisque pour faire la flûte, il a fallu couper le roseau. Et donc c'est le symbole de la séparation, de la tristesse.
از جدایی ها
La voix de Oustad Mawash, une chanteuse afghane avec ses musiciens dans cette chanson qui s'appelle « Écoutez le Naï », la flûte dont vous parliez, Jean-Michel Marlot.
Voilà, et là simplement, je terminerai en disant que le rôle d'une ambassade dans un pays comme l'Afghanistan est un rôle différent de celui qu'on peut jouer dans les pays comme la Bolivie ou la Colombie, mais nous sommes le seul pays à avoir un institut culturel ouvert avec un auditorium de 450 places dans lequel on peut organiser des échanges entre des musiciens afghans et des musiciens européens, français. L'objectif n'est pas tellement de leur améliorer leur technique parce qu'ils la connaissent, mais plutôt de les ouvrir au monde extérieur. Et puis, pour terminer, je voudrais simplement dire que l'un des points importants aussi de l'Afghanistan, c'est le fait d'avoir toujours nourri notre imaginaire. Dans cette même oasis de Balkh où est né Rumi, se trouve un grand hôtel du feu dans la montagne. Et on dit que c'est là que Alexandre le Grand a épousé la princesse Roxane, la resplendissante. D'où le choix pour finir de l'opéra Cléophile de Hasse, puisque c'est une histoire qui se passe entre Alexandre le Grand et le roi Porus des Indes.
Et le message est clair, que l'amour triomphe de la guerre. William Christie à la tête de la Capella Coloniensis, Cologne donc, et les Rheinische Kantorei dans ce chœur final de l'opéra Cléophide de Johann Adolf Hasse. Et on va devoir se quitter, Jean-Michel Marlot, mais on aimerait tellement vous écouter parler de tous les pays. Quel beau témoignage, merci beaucoup.
Mais merci beaucoup, mais on aimerait surtout entendre les traverses du temps encore longtemps.
Eh bien, en tout cas, merci pour cette dernière semaine des traverses du temps d'avoir été avec nous. Je suis très, très, très reconnaissant, tous les auditeurs aussi. Et l'équipe des traverses du temps ce soir, c'était Ariane Herbé, François Pron, Julie Guéroux, Martine Monnier à la production, Philippe Petit qui a réalisé l'émission.